nous espérons que le collectif d'explorateurs ne sera pas seulement réservé aux trois qui sont face aux autres. Et on va bien discuter ensemble. Surtout que si on s'amusait à faire l'exercice individuel ou collectif de se dire que finalement, d'une manière ou d'une autre, le thème qui est la cible ou l'enjeu du séminaire est toujours présent à un degré ou un autre dans nos recherches antérieures ou voire dans nos premières recherches. Bon voilà, on pourrait tous se dire, mais en fait, je suis concerné et surtout, j'ai beaucoup travaillé dessus déjà. On pourrait le faire, Jérôme et moi, individuellement ou collectivement. On va pas le faire. Ce qu'on va faire quand même, c'est vous donner un peu des pistes antérieures qui nous ont conduit à nous intéresser à cette question et à la rencontre. Non pas avec Antoine aujourd'hui, même il y a peu de temps, ça fait un certain moment, mais qu'est-ce qui, en gros, sont les fondations dans ce que vient d'expliciter Antoine sur les pistes et les objectifs du séminaire. Donc comment, en gros, avec Jérôme, on a rencontré de manière plus frontale cette question, même si, encore une fois, il y avait des choses dans les travaux antérieurs. Donc évidemment, la question, pour nous, elle surgit avec l'enquête que vous connaissez, certains, c'est sûr, d'autres peut-être pas, sur la signalétique et donc les panneaux du métro parisien. Donc en quelques mots, c'est une enquête qui a commencé il y a 10 ans. Dans le cadre d'un travail, on était très intéressé par les questions d'écriture et la façon dont les écritures exposées dans l'espace public faisaient des choses aux gens qui traversaient ces espaces, faisaient des choses à l'environnement lui-même. Et donc, on a commencé une enquête sur la signalétique avec un angle tout de suite un peu spécifique, puisqu'on est parti avec une volonté forte de ne surtout pas s'intéresser aux usagers. Donc, c'était un angle très, on va dire, très marqué par une sociologie de l'innovation qui regarde les innovateurs, pas seulement, mais en grande partie. Et donc, comme il y avait un certain nombre de travaux déjà disponibles sur la signalétique du métro parisien, et notamment sur la façon dont les usagers s'en servaient, la trouvaient pas du tout adaptée, la détournaient, enfin, tout ce qu'ils faisaient avec ou autour pour se débrouiller et aller d'un point A à un point B, on s'est dit que ce serait intéressant de s'intéresser à ces formes d'écriture dans des espaces publics en regardant un peu le côté de conception designer. Et donc, c'est ce qu'on a fait au début. En allant à la RATP, en reconstruisant un peu l'histoire de cette signalétique et en découvrant que, en fait, la signalétique a été l'objet d'un investissement fort au milieu des années 90. Je ne vais pas du tout refaire toute l'enquête, mais juste pour dire que voilà, c'est un moment fort dans lequel on commence à réfléchir à des choses à la RATP et à harmoniser un certain nombre de signes et de systèmes, puisque la signalétique du RER, des bus, du métro n'étaient pas les mêmes. Donc c'est un moment important, donc on a essayé de le reconstituer avec Jérôme. Et on a été, au-delà de l'intérêt, on a été surpris, étonné, voire ébahi par tout le travail qui avait été fait par ces gens pour investir des signes, standardiser une langue qui a été conçue comme modulaire, donc vraiment standardiser le moindre élément. Que ce soit effectivement la police de caractère, mais également les couleurs, les formes, puisque avant cette standardisation, il y avait une flèche par type de signalétique, RER, bus, là il n'y a plus qu'une flèche, donc il y a tout un tas d'éléments comme ça. Les dimensions des panneaux sont au millimètre près sur les joints du carrelage, enfin, voilà, il y a tout un travail de conception qui nous a fascinés. Et on était face à un travail qui était en plus très très bien documenté par entretien quand on les sollicitait, ces gens-là, mais aussi dans trois gros classeurs qui, en trois gros volumes, explicitaient la charte graphique et donc tous ces éléments qui nous intéressaient pour voir quel type d'investissement avait été l'objet, ces panneaux avaient été l'objet. Et donc avec une perspective qui pour nous était très confortable. On était, pour le dire très vite, et ici ça marche bien, on était dans l'acteur réseau 1.0, des innovateurs qui façonnent le monde, le stabilisent avec des écrits, des inscriptions, stabilisent à la fois les voyageurs, donc on a tout un chapitre sur les scripts, très ancré sur le travail de Madeleine Akrisch, hein, donc comment dans des panneaux sont inscrits un certain nombre, différents types d'usagers. Donc voilà, on était vraiment dans ce modèle-là. Comment l'écrit donc fait des choses aux voyageurs, comment l'écrit exposé fait également des choses à l'environnement et le stabilise. avec une fascination encore plus forte quand on découvre que en fait, c'est la signalétique qui organise toute qui organise la distribution des autres signes sur les quais et dans les couloirs, comme la publicité par exemple. Donc vraiment quelque chose de très fort. Et pour reprendre la notion de la tour mobile immuable, on était face à des immobiles immuables. Donc vraiment la fixité, la permanence, quelque chose de très fort qui pourrait aller dans cette ligne vers des dispositifs de discipline à la Foucault, dans des micro-dispositifs, des micro-signes exposés. Donc là-dessus, on a dû, être là-dessus sur un an. Et puis à un moment, on retourne faire un entretien à quelqu'un dans le département d'aménagement des espaces, qui était quelqu'un qui s'occupait de la normalisation, qui nous avait déjà assez documenté tout un tas d'aspects. Puis on retourne la voir, et à un moment, au détour de l'entretien, la deuxième fois où on va la voir, on dit « Mais est-ce que vous êtes allé dans le département de maintenance ?» Et donc cette petite phrase est non seulement fait rebondir l'enquête, puisque on se dit « Ah ben non, on va y aller », mais c'est pas seulement ça, c'est pas juste un complément de l'enquête, en fait, c'est un... ni un renversement, mais une exploration totalement nouvelle qui s'ouvre à nous. On va dans le département de maintenance, on fait quelques entretiens, puis on négocie l'accès à l'accompagnement des agents, donc on est parti dans les camions, dans les stations, et puis on regarde ce qu'ils font. Et là, les signes, les panneaux, c'est plus du tout ce qu'on croyait. Ou ce qu'on croyait, non pas qu'on nous aurait menti, mais c'est plus du tout les mêmes. C'est à la fois totalement les mêmes, et en même temps, ces panneaux, dans les mains des mainteneurs, c'est plus du tout des immobiles immuables, c'est des mobiles muables. Ils tombent, ils se cassent, il y a des collectionneurs qui les enlèvent des murs, il y a même dans des espaces souterrains comme ça, certains panneaux qui arrivent à avoir leur couleur qui fane. Donc il y a tout un tas de variations qui, dans les yeux et dans les mains des mainteneurs, et nous, juste à côté d'eux, tout un tas de variations qui deviennent totalement sensibles. Les accompagnants, on voit également comment ces agences et de maintenance sont engagées dans un certain genre d'action. Donc ils deviennent enquêteurs, explorateurs, puisqu'ils ont tout un système d'infos qui leur dit qu'il faut aller là pour réparer ou maintenir le panneau. Et très souvent, il faut faire autre chose en fait. On n'est pas sûr d'être face au bon panneau, donc on réfléchit, on explore, on touche, on connaît l'environnement par cœur, mais il faut quand même le scruter encore plus en détail. Même si un certain nombre, parce qu'il y a différents types de panneaux, donc il y a des caissons, par exemple lumineux, même si eux-mêmes sont standardisés au millimètre, à des moments, il faut déployer toutes ces ficelles du métier où on remonte quasiment à la surface, chercher un bout de journal qu'on sait plier et hop, ça cale le panneau. Donc tout un tas de petites choses, essais, erreurs, ficelles, qu'on connaît très bien en sociologie du travail entre prescrit réel, mais en gros une grosse charte graphique au millimètre, et puis effectivement tout ce travail à la fois d'enquêteur et d'ajustement en situation. Et puis, dernier point sur lequel j'aimerais insister, quand on suit ces gens, et donc encore une fois, c'est une autre enquête qui est totalement articulée à la première que je décrivais, mais qui nous fait voir les panneaux totalement autrement, c'est comment en fait ces objets font l'objet... perpétuel d'assemblage et de désassemblage. En gros, on est face à quelque chose qui n'est pas seulement un panneau et un mur. Non seulement il y a toute cette écologie matérielle qui est constamment en jeu entre le panneau, entre guillemets, la plaque, mais la plaque était sur un support métallique, elle-même arrivée avec des équerres, il y a le carrelage, le mur, selon où est la station, il y a un filtré, il y a de l'eau, il y a des joints... ça suinte, enfin voilà, il y a tout ça qui est compliqué. Et puis, il y a un certain nombre de panneaux qu'il faut carrément démonter. Il faut les désassembler. Donc, notamment, ceux qui sont ce qu'ils appellent les caissons lumineux, il faut mettre la tête dedans, il faut faire attention au courant, et puis il faut retirer des vis pour enlever la plaque, puis la plaque elle-même. Certains des panneaux ont une vingtaine de vis avant de pouvoir en extraire la plaque qui est abîmée et dont on a sa remplaçante toute neuve et qu'on va fixer. Donc il y a tout ce travail qu'on avait exploré à un moment dans ces corps à corps où on avait cette formule, en gros, pour résumer le propos, qui était plus l'objet résiste, plus le corps plus le corps de l'objet résiste, plus le corps du mainteneur travaille. Donc il y a toutes ces histoires intéressantes, on va dire, entre corps à corps, matière, matérialité, on va y revenir. Mais ça nous a aussi ouvert une autre piste absolument pas... prévu au départ. Non seulement on était sur designer standard, et puis on arrive, on est dans maintenance, attention aux mutations, et donc à une certaine forme de fragilité. Et puis s'ouvre à nous, avec cette histoire de nombre de vis, difficultés, des questions de maintenabilité. Et donc on passe de la maintenance à la maintenabilité à un moment dans... Non pas qu'on revient jamais en arrière, mais c'est une nouvelle piste, et de se dire, ok, s'intéresser à la façon dont les objets sont fragiles, c'est suivre ces opérateurs, voir ce qu'ils font avec, comment ils les envisagent, et comment les objets les obligent aussi à s'aligner, à réagir. Mais ça ouvre des questions sur la maintenabilité des objets, et donc c'est, en gros c'est la boucle sur le design. Si on concevait autrement les objets, en intégrant non pas seulement l'innovation, mais aussi la maintenance, on construirait des objets plus facilement, ou plus, je sais pas quoi, maintenables.
J'enchaîne, on a une chorégraphie, on met Antoine au milieu. Alors en même temps qu'on fait ça, on lit des livres et des articles, si on refait le cheminement. Et, alors ça, tout ça c'est 2007-2008, il y a un papier important mais bon, sur lequel on reviendra un tout petit peu après, parce que ce qui a commencé un peu à structurer ce qui allait devenir quelques années plus tard, une espèce d'objet commun de recherche, qui est le papier de Graham et Thrift, donc deux géographes, qui s'appelle Out of Order, pour l'interrogation, et qui font un machin sur est-ce qu'il n'y aurait pas des enquêtes à faire sur la réparation et la maintenance en général. Donc ça consolide un peu l'intérêt qu'on avait et même l'idée que en fait il y a quelque chose vraiment particulièrement passionnant et puis qui peut apporter même de l'analyse générale du côté des STS, pour le dire simplement. À continuer à suivre cette piste-là. Et puis, on lit aussi le livre d'Anne-Marie Moll, Logic of Care, qui résonne à la fois bizarrement et qui est un peu à la naissance du début de ce qu'a expliqué Antoine pour démarrer le séminaire et de ce séminaire-là, qui est de dire, oui, Moll, en fait, parle du care, mais pas simplement comme l'idée de la pratique du soin qu'on va décrire, mais comme une logique particulière et qui s'opposerait à d'autres manières de soigner, en fait. Donc on découvre un peu ça, puis après, évidemment, on va dire tout le reste sur le care, notamment Tronto et le geste assez fort de Tronto, puis après d'autres. Mais dans Moll, on retient deux choses qui nous paraissent particulièrement importantes et qui vont guider nos premières réflexions autour de ça. La première, c'est donc, si je résume très très rapidement le boulot de Moll, elle bosse sur le diabète dans cette enquête-là, et elle explique qu'il y a eu un basculement politique assez important qui a consisté à redonner un peu de pouvoir aux malades au moment dans les soins aux diabétiques. Mais elle explique que ça, au départ, tout le monde pense que c'est très très bien, donner la possibilité de faire des choix aux malades, etc. Puis en même temps, c'est aussi très brutal. Et c'est une logique du choix, qu'elle va définir comme la logique du choix, qui certes redonne un pouvoir aux malades, mais finalement le rend un peu responsable lui-même, tout seul, de sa propre maladie, de chaque manière de soigner, de chaque type de protocole qu'il va suivre, etc. Et elle identifie une autre logique, qui est la logique du care, qu'elle identifie avec deux choses centrales. La première qui en gros insiste sur le fait qu'il y a une distribution, pas forcément du travail, mais nous on va le dire comme ça parce qu'on s'intéressait à ces questions-là, mais qui élargit les acteurs et les machins, les êtres, les entités qui comptent et qui participent au care. En sortant volontairement du face-à-face entre médecins et patients, en montrant que si le care, c'est tout un tas de petits gestes, tout un tas de petites choses qui se répartissent en fait dans des situations et qui comptent plus ou moins, mais qu'il n'y a pas tellement. Enfin, que si on est attentif à cette logique-là, en fait, on devient justement. On se met à pouvoir observer et à se rendre compte de tout ça. Et puis le deuxième point. Donc ça nous a importé pour comprendre un peu l'histoire de distribution du travail et dans une situation très particulière. Et on prend soin des panneaux, on prend soin des diabétiques, on sait bien que c'est pas pareil. Et en même temps, on voyait des choses qui étaient pas complètement si éloignées. Et le deuxième point, c'est et c'est sans doute ce moment-là où on s'est dit qu'il fallait continuer à enquêter là-dessus, voire en faire un programme de recherche beaucoup plus large. La logique du care, Moll l'identifie comme une manière d'envisager la fragilité comme le point normal d'état des êtres. Et non pas une défaillance, pour le dire autrement. Une défaillance qui serait prise sur avec à l'horizon un point normal qui est la bonne santé. Alors, elle parle pas, elle n'oppose pas cure et care, et c'est des choses toujours un peu compliquées à opposer, et c'est pas forcément la peine de rentrer dans ces débats-là. Mais disons que le point important, c'est de dire, alors qu'une bonne partie des logiques d'avant étaient orientées vers l'idée qu'il faut se remettre en bonne santé, parce que la bonne santé, c'est l'état normal des personnes, la logique du care considère que la fragilité, la précarité, les défauts, etc., sont la vie quotidienne, sont l'état normal, en fait. Donc c'est le point de départ. Et c'est à peu près ce que l'impression qu'on avait quand on avait suivi nos mainteneurs, là, qui sont des ouvriers pas qualifiés, qui se baladent dans les couloirs du métro, c'est qu'on avait finalement switché entre... des designers, des concepteurs, une charte graphique, ils disaient l'état normal, c'est celui-là, il est standard, il ne bouge pas, il est tout impeccable. Et puis des gens qu'on suivait qui nous parlaient de ces panneaux et de l'état général du système de la signalétique comme étant normalement pas du tout à la norme parce que c'est pas encore tout fait, comme étant normalement rouillé. Ben oui, dans ces stations, il y a des infiltrations, je le sais, donc ça roule tout le temps, machin, etc. Il y a des voleurs, il y a des gens qui cassent, c'est normal. C'est pas du tout un truc qui serait... un truc pas normal du tout, il faudrait remettre à une norme mais générique. C'est normal, mais en même temps, nous, il y a deux normes et on construit le standard, le machin, mais au quotidien, c'est normal de le faire, on s'arrête jamais. C'est un truc qui est presque par nature perpétuel. Donc ça, c'est le point général de notre trajectoire. Il faut qu'on aille plus vite, parce qu'on commence à être déjà trop long. Après, si on recule un peu, une fois qu'on a commencé à écrire nos premiers papiers, le bouquin autour de ça, petit à petit, en fait, notamment dans des conférences, on s'est rendu compte que ça faisait faire autre chose de s'intéresser à ces gens-là, à comment ils travaillaient ça et comment ils se débrouillaient avec ces panneaux qui étaient pas si standardisés que sur le papier. C'est que non seulement en les observant, on apprenait, on faisait de la sociologie du travail assez classique, ou de l'ethnographie du travail assez classique, on comprenait comment ils se débrouillaient, on comprenait leurs activités, comment ils s'organisaient, etc. Leur place même dans l'organisation du travail, parce que si on se met à penser la maintenabilité, ça permet de réfléchir au fait que c'est les tout derniers qui s'occupent de ces panneaux-là, et que peut-être que si on organisait des choses différemment, ça pourrait changer. Ça, c'est un premier niveau de cette observation-là, mais en fait, ce qu'on a petit à petit... réalisé presque au fur et à mesure de l'enquête, et puis après au fur et à mesure des premières conférences ou des moments où on en parlait, c'est que eux-mêmes en fait nous apprenaient des choses sur des points très théoriques, et que des points très théoriques, voire philosophiques, de qu'est-ce que c'est que la matière, par exemple, ou de qu'est-ce que c'est que la visibilité et l'invisibilité au travail, c'était leur problème très concret à eux. La fragilité, c'était leur manière de traiter la fragilité, c'est un moyen de nourrir notre peut-être compréhension conceptuelle de la fragilité, mais c'est pas un concept avec lequel on arrive comme ça. Alors, ça s'est notamment fait dans des discussions avec Karen Barad, par exemple, qui est une espèce de physicienne, métaphysicienne de la matière, du machin, etc. Et quand on a eu l'occasion de lui présenter nos travaux, et ben, voilà, vos gars là, ils se tartent exactement les questions que moi j'essaye de nous poser, mais d'un point de vue un peu, d'un point de vue métaphysique. Et c'est exactement la richesse, et je pense que c'est un des gestes importants qui soulève toute la question du type d'enquête, du type de connaissance qu'on peut, du genre de rapport qu'on peut avoir avec ces acteurs-là, qui sont pas du tout, qu'on n'observe pas de l'extérieur, mais qu'on comprend comme des... Alors expert, le mot est sans doute pas bon, quoi, mais des gens qui font l'expérience de questions de la matière, notamment, et des questions de l'invisibilité, de visibilité au travail. Donc j'ai... Alors, les deux points principaux avec lesquels on a poursuivi cette enquête-là, c'est donc cette question du visible et de l'invisible. Alors, on ne va pas passer 2 heures dessus, mais disons que le premier geste qu'on a envie de faire, de dire, bah oui, c'est les travailleurs invisibles, et puis c'est invisible ce qu'ils font, etc. Et puis après, on fait, ah, oula, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est invisible auprès de qui? Donc on prend Goffman, on prend Istar sur les infrastructures, tous ces gens-là. Et puis après, on se dit, ah oui, non, mais ils ne sont pas si invisibles que ça, ils ne sont pas invisibles aux tous. Et en même temps, ils produisent une certaine forme de visibilité, en l'occurrence. Donc ils rendent invisibles des trucs, mais pas d'autres. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tous les gens qui maintiennent des choses font ça, etc. Donc ça a ouvert une piste, ça a complexifié, en gros, ce que... Anselm Strauss et Listar avaient appelé les écologies du visible et de l'invisible dans le monde du travail. Et puis la deuxième piste, sans doute la plus importante, c'est la question de la matière, donc, que j'évoquais tout à l'heure. Nous, on était baignés dans une définition de la matérialité qui est un peu problématique, qui était... en général, quand un sociologue ou quelqu'un des sciences sociales vous parle de la matière, il vous dit « c'est des trucs qui résistent ». Nous, on avait des gens qui prenaient la matière, il y a des trucs qui tombent, et qui se cassent, qui s'abîment, qui ne tiennent pas, donc ça ne marchait pas. Et finalement, on a eu un autre papier aussi important dans l'histoire, c'est le papier d'Ingold, qui date à peu près de la même époque, si je ne m'abuse, qui s'appelait « Materials against Materiality », bon, qui est hyper normatif, mais qui est très intéressant pour dire « matérialité, ça ne veut pas dire grand-chose », parce qu'en fait, il y a des... Les propriétés matérielles sont immensément variées et diversifiées. Et donc, en observant des paires, des binômes d'ouvriers qui essayent de faire tenir un panneau, qui essayent de voir s'il tient bien et qui essayent de se débrouiller pour voir si cette colle-là, cette vis-là va effectivement faire tenir le machin, on découvrait des formes de rapport à la matière et des formes de rapport à la fragilité matérielle. Au fait que ça n'allait pas de toute façon durer tout le temps, etc., qu'on avait trouvé absolument passionnant.
Alors, pour le dire, puisqu'il ne faut pas déborder, et que c'est déjà fait apparemment, tout ceci, en fait, nous conduit forcément à continuer à lire, à repérer d'autres gens, et à former progressivement ce que Diana Crane a appelé les collèges invisibles, donc des gens qui se repèrent, qui se lisent, qui se citent, qui s'invitent. Et donc on repère dans différents types de réseaux, pas seulement en STS, mais en grande partie, des gens qui travaillent sur d'autres types d'objets, mais avec les mêmes questions, donc des questions de fragilité, vulnérabilité, maintenance, réparation. Alors je vais accélérer, et donc en gros, pour aller vite et forcer le trait, on est tous dans ce réseau, ce collage invisible en constitution, à faire un constat important en STS notamment, c'est que ces travaux et ces accompagnements denses et ethnographiques la plupart du temps de ces acteurs qui s'intéressent à des situations fragiles et qui les prennent au sérieux dans la façon dont ils s'engagent avec ces choses ou ces personnes, ces entités, développent finalement une prise de position assez forte face à l'obsession pour l'innovation. Et donc, en gros, de dire, en STS, mais pas seulement, l'innovation a été tout à fait intéressante et très pertinente et heuristique à décrire. Tous ces processus nous apprennent plein de choses. Mais à partir du moment où on s'intéresse à cette fragilité, ces situations de réparation, de maintenance, en fait, ça ouvre sur tout un tas, sur un continent, pour aller vite, sur un continent inexploré. Et donc, ça, c'est des choses que collectivement, dans ce collège invisible, on trace. Et en quelques mots, notre position dans ce réseau avec Jérôme, notre particularité entre guillemets, même s'il y a des choses partagées avec les autres, c'est un, c'est qu'on s'intéresse à des travailleurs spécialisés au sein d'institutions, alors que, mais c'est très bien, mais certains des collègues de ce réseau s'intéressent par exemple aux tactiques d'usagers, et donc des gens qui sont pas spécifiquement dédiés à cette attention ou à ce soin donné à des objets. Dans une organisation qui leur assigne une place, des objectifs, tout un tas de choses. Ils s'intéressent à des collectifs, des communautés, des groupes qui peuvent développer des conventions, des normes, mais ce n'est pas au sein d'une institution qui leur assigne une place. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que maintenant, ça fait 4 ans qu'on dit qu'on est en train de faire un review paper sur toutes ces études. Et plus on lit, plus on écrit des bribes, et plus on n'est pas loin, on n'est jamais loin, et plus ça va, plus on se dit que ça sert à rien de le faire. Donc on ne sait plus trop. Mais je dis ça pour donner une deuxième caractéristique qu'on a, c'est qu'on essaye d'explorer la diversité des situations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a notre enquête sur les panneaux, on en a commencé une autre il y a un an sur l'effacement des graffitis, et dans la même le prolongement de ces questions sur la fragilité, sur la maintenance. Mais lisant tous ces travaux faits par des collègues dans des situations concernant des entités variées qui vont, on verra certains ici, du corps de Lénine à des téléphones, à un canal, des entités à des échelles et des types de soins qui leur sont portés tout à fait variés. Ce qui nous intéresse, c'est de continuer l'enquête, non seulement en déployant nous-mêmes des terrains, mais également en regardant ce que font les autres, pour surtout pas, on pourrait dire comme ça, marketer ce qui commence à émerger comme étiquette, donc les Repair and Maintenance Studies, autour de trois dimensions principales, travail invisible, contre l'innovation, je ne sais pas quoi. C'est absolument pas notre point. Et dans ce travail d'attention qu'on porte à la diversité, c'est le dernier point que je voudrais faire, c'est la question de l'ontologie. Et donc, d'un certain point de vue, paraphrasant Donna Haraway avec sa formule « Nothing comes without its world », donc rien ne vient sans son monde, on pourrait dire que tout objet vient avec sa maintenance. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est un peu les prolongements qu'on va essayer d'avoir contre nous, mais aussi ici, je suis sûr, c'est évident. Voilà, on va quand même s'ouvrir à ça, sinon on ne serait pas là. C'est de réfléchir à ce lien fort entre l'ontologie de l'objet et les conditions de sa maintenance. Pour donner un exemple très rapide, quand vous avez un téléphone Apple et que vous allez chez Apple pour le faire réparer, l'ontologie de l'objet que vous projetez, que les réparateurs projettent, c'est le bright and shiny. Le truc tout neuf, on va vous le remettre comme il faut et c'est ça qui est projeté. Quand avec le même téléphone, vous allez par exemple en Ouganda dans un repair shop et que le réparateur vous démonte trois téléphones et reconstruit quelque chose qui téléphone mais qui prend pas forcément de photos ou qui a la vitre cassée mais ça marche quand même le tactile, c'est pas du tout la même ontologie de l'objet qui est projeté et qui est énactée pour reprendre cette formule.
Bon, juste pour finir,
lui, il s'en prend. J'ai l'impression d'être un filet de ping-pong.
On va faire un lettre.
Je vais finir juste sur les perspectives du séminaire, mais Antoine les a déjà évoquées. Mais comme la question, il y a une espèce quand même de découverte de ça avec Moll et donc avec la question du soin des personnes. Et finalement, on n'a pas croisé plus ça que dans ce réseau-là dont parlait David, c'est surtout des objets, des infrastructures qu'on partage comme question de soins. Il y a des gens qui travaillent sur la médecine, il y a quelques personnes qui brouillent un peu tout ça justement. Mais finalement, les gens avec qui on discute en ce moment et les gens qui se réunissent tous ont une espèce d'excitation très partagée sur « mais t'as vu, regarde, si on ouvre cette porte-là, il y a évidemment aussi des mainteneurs ». C'est comme si à chaque fois il y avait une face et il y avait un peuple de mainteneurs et qu'on n'avait pas regardé, quoi, qu'on n'avait pas attendu. On n'a pas cité, mais il y a une toute petite phrase de Star qui répond au papier de Latour sur le groom hydraulique. Parce qu'à un moment donné, Latour dit, voilà, on a délégué. Et en gros, bon, il y a deux petits problèmes, mais si on les met de côté, ça marche. Il y a un problème, c'est que, effectivement, les gens en fauteuil roulant, les personnes avec des poussettes ont un peu de mal avec cette porte-là, qui a son groom qui referme tout seul. Et puis, il faut maintenir. Mais si ça, c'est réglé, c'est réglé. Et puis, Star dit, there is no analytical reason to put aside maintenance. Et en même temps, on a l'impression que c'est ce qui a été fait pendant tout le temps. C'est vraiment donc, il y a ce... Ce point-là qui est partagé, du coup, finalement, la réflexion sur le faire généralisé dans ce réseau-là, elle n'est pas centrale. Elle fait partie un peu de la discussion, mais elle n'est pas centrale. Donc, il y a une occasion vraiment forte dans ce séminaire, c'est de continuer ça. Et de réfléchir et de construire une conversation avec les derniers papiers, notamment de Puig de la Bella Casa et son bouquin, ou Myers, ou Murphy, qui réfléchissent à ça. Qu'est-ce que c'est que le CARE exactement avec, à l'horizon. Sans doute un truc auquel il faut faire attention, c'est pas trop romanticiser tout ça, parce que si c'est juste un machin pour dire c'est là où sont tous les gens très bien qui font que des trucs super et s'énerver, puis on revient sur l'éloge du carburateur en gros quoi, et voilà, c'est super de prendre soin de sa moto et d'arrêter de. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, il y a des choses de cet ordre-là, mais c'est. Et des fois le soin est ambigu, il se fait pour, contre, pour des choses qui sont pas forcément. Le panneau du métro, c'est pas la même. Même ça, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenir, soutenir, prendre soin et du coup, quel est le genre d'enquête qu'on peut mener pour faire ça? Et donc, il y a cette lignée-là. Et puis, ce que vous allez voir dans les invités, comme disait Antoine, qu'on a pris un peu au pifomètre, on a profité de gens qui étaient dans les parages et qui n'étaient pas trop chers d'inviter aussi, donc qui sont notamment des gens qui sont aux États-Unis habituellement, qui font partie ou dont on aimerait qu'ils fassent partie de ce réseau sur Repair et Maintenance et qui ont des objets dont on espère qu'ils vont porter justement leur spécificité et leur à la fois par l'enquête et par les questions qu'ils posent en termes de maintenance. Donc on va parler du corps de Lénine avec Sergio Urchak, on va parler des installations d'art contemporain par exemple avec
Fernando Domingo.
Voilà, Fernando et Dominguez Rubio. Dominguez Rubio, son nom de famille. Avec Fernando. Enfin, en tout cas, voilà, l'idée, c'est de continuer un peu à aller creuser ces choses-là, en les forçant aussi un peu, éventuellement, ceux qui n'ont pas fait le lien jusqu'à... Mais si on réfléchissait en termes de cœur généralisé, est-ce que ça vous fait quelque chose aussi à vous ? Est-ce que vous pensez que ça fonctionne et qu'on peut faire des liens forts avec des discussions autour des trajectoires d'Antoine, autour de la maladie d'Alzheimer, autour des migrants ? Qu'est-ce que ça fait tout ça ? Et puis autour de tout ce que vous, éventuellement, et tous les gens qui participeront au fur et à mesure, amèneront aussi comme réflexion, soit par les terrains, soit par les situations, y compris personnelles, qu'on connaît. Donc c'est, encore une fois, tout ça est évidemment très ouvert, même si ça croise une ligne un peu à droite.